Chapitre 5e. Le père Richard et son fils occupaient, au cinquième étage d'une vieille maison, une chambre qui aurait pu faire parfaitement le pendant de la demeure de Mariette et de sa marraine. Même misère, même dénuement, un grabat pour le père, un lit de sangle pour le fils, une table vermoulue, quelques chaises, une sorte de vieux bahut destiné à serrer les hardes, tel était l'ameublement. Le père Richard, en revenant de son échoppe, avait acheté et mis sur la table le repas du soir. Une appétissante tranche de jambon, dans un morceau de papier blanc servant d'assiette, et un pain de 4 livres tendres. Une bouteille d'eau fraîche était placée en regard d'une maigre chandelle qui dissipait à peine les ténèbres de la chambre. Louis Richard, âgé de 25 ans environ, avait une physionomie ouverte, remplie de douceur et d'intelligence. Sa bonne grâce naturelle se faisait même jour sous ses habits râpés, usés, blanchis sur toutes les coutures. Les traits de l'écrivain public exprimaient une grande joie, cependant tempérée par l'inquiétude que lui causaient pour certains projets depuis longtemps caressés par lui les divers événements de la journée. Le jeune homme, après avoir déposé son modeste sac de nuit, venait d'embrasser son père qu'il adorait. Le bonheur de se retrouver auprès de lui, la certitude de voir Mariette le lendemain, épanouissait la figure de Louis et augmentait sa bonne humeur naturelle. « Ainsi, mon garçon, » dit le vieillard en s'asseyant devant la table et dépeçant le jambon, « tu as fait un bon voyage ?»« Excellent, mon père. »« Ah ça, dis-moi ce que... Mais veux-tu dîner ? Nous causerons en mangeant. »« Si je veux dîner, mon père, je le crois bien. Je n'ai pas mangé à table d'hôte comme les autres voyageurs et... pour cause, » ajouta gaiement Louis, en frappant sur son gousset vide. « Ma foi, tu n'as rien à regretter, » reprit le vieillard, en partageant en 2 portions inégales la tranche de jambon et donnant à son fils le plus gros morceau. « Ces dîners d'auberge sont chers et ne valent pas le diable. » Ce disant, il offrit à Louis un formidable croûton de pain tendre, puis le père et le fils se mirent bravement à manger, comme on dit, sur le pouce, arrosant le repas de glorieuses rasades d'eau claire et faisant tous deux preuve d'un robuste appétit. L'entretien continua de la sorte pendant le dîner. « Voyons, mon garçon, » reprit le vieillard, « conte-moi ton voyage. »« Ma foi, mon père, il est bien simple, ce voyage. Le notaire, mon patron, m'avait donné le projet de plusieurs actes à faire lire à M. Ramon. Il les a lus et étudiés en y mettant, il faut le dire, le temps. 5 grands jours. Après lesquels, ce coûte le personnage, m'a remis l'édit de paperasse annoté, commenté. Puis, Dieu merci, me voilà. Dieu merci, ah ça, est-ce que tu te serais ennuyé, à Dreux ? Je me suis ennuyé à la mort, mon père. Que l'homme est-ce donc, ce monsieur Ramon, chez qui les gens s'ennuient si fort ? La pire espèce d'homme qu'il y ait au monde, cher père, un avare. Fit le vieillard en toussant, comme s'il eût avalé de travers. Ah, il est avare ? Il faut qu'il soit riche alors. Je n'en sais rien, mais l'on peut être avare d'une petite fortune comme d'une grande, et s'il faut mesurer les biens de ce monsieur Ramon à sa parcimonie, il doit être archimillionnaire. Vieil harpagon, va. Et Louis mordit son pain avec une sorte de frénésie. Entre nous, mon pauvre garçon, si tu avais été élevé dans le luxe et dans l'abondance, je concevrais les récriminations à l'endroit de ce vieil harpagon, comme tu dis, mais... nous avons toujours vécu dans une telle pauvreté que, si avare que soit ce monsieur Ramon, tu n'as pas dû trouver une grande différence entre son existence et la nôtre. Ah, mon père, que dites-vous là ? Comment ? Monsieur Ramon a 2 servantes, et nous n'en avons pas. Il occupe une maison tout entière, et nous logeons tous deux dans cette mansarde. Il a 3 ou 4 places en dîner, et nous mangeons sur le pouce un morceau de n'importe quoi. Eh bien, nous vivons pourtant 100 fois mieux que ce grippe-sous. « Je ne te comprends pas, mon enfant, » dit le père Richard, qui semblait de plus en plus contrarié du jugement que son fils portait sur son hôte de Dreux. « Il n'y a pourtant aucune comparaison à établir entre l'aisance de ce monsieur et notre pauvreté. Mon cher père, nous sommes franchement pauvres au moins. Nous supportons gaiement nos privations, et si dans mes jours d'ambition j'ai rêvé quelquefois une vie un peu meilleure, vous le savez, ce n'est pas pour moi, car je me trouve satisfait de mon sort. « Cher enfant, je connais ton bon cœur. Je sais combien tu m'aimes, et ma seule consolation dans notre pauvreté et de savoir qu'au moins tu ne te plains pas de ta condition. M'en plaindre? Est-ce que vous ne la partagez pas? Et puis après tout, que nous manque-t-il? Le superflu? Il nous manque au moins l'aisance. Ma foi, bon père, je ne m'en aperçois guère. Nous ne mangeons pas de poulet truffé, c'est vrai. Mais nous mangeons à notre faim et de franc appétit, témoin ce papier vide et la rapide disparition d'un pain de 4 livres à nous deux. Nos habits sont râpés, mais ils sont chauds. Notre chambre est au 5e, mais elle nous abrite. Nous gagnons à nous deux, bon an mal an, 1600 à 1800 francs. Ça n'est pas lourd, mais nous ne devons rien à personne. Allez, cher père, que le bon Dieu ne nous envoie jamais de plus mauvais jours, et je ne me plaindrai pas. Je ne peux te dire, mon enfant, combien tu me fais plaisir en me parlant de la sorte, en acceptant si résolument ton sort. Vrai, tu te trouves, tu t'es toujours trouvé heureux ainsi, très heureux, bien vrai. Pourquoi vous tromperais-je? Voyons, bon père, ai-je jamais eu l'air soucieux, chagrin, comme tout homme mécontent de son sort? C'est qu'aussi, tu as un si rare, un si excellent caractère. Ça dépend, car s'il me fallait, par exemple, vivre avec Monsieur Ramon, cet abominable fesse-Mathieu, je deviendrais insupportable, indomptable, hydrophobe. Mais qu'as-tu donc contre ce pauvre homme? Ce que j'ai? La rancune féroce qui résulte d'un supplice de 5 jours. Un supplice? Et qu'est-ce donc, cher père, qu'habiter une grande maison délabrée, si froide, si sombre, qu'auprès d'elle un tombeau paraîtrait une demeure réjouissante? Et puis voir dans ce grand sépulcre aller venir comme des ombres de vieilles servantes, mornes, maigres, affamées. Et quel repas, grand Dieu, que ceux où le maître de la maison semble compter les morceaux que vous mangez. Et sa fille donc, car ce malheureux-là a une fille, et son espèce se perpétuera peut-être, hélas. Et sa fille qui préparait sur la table la part insuffisante des domestiques et allait serrer elle-même sous double tour de clé les reliefs du maigre festin. Tout ce que je peux vous dire, cher père, c'est que moi qui jouis d'un fameux appétit, comme vous savez, au bout de 5 minutes de séance à la table de cet harpagon, j'étais rassasié, et qui pisait, révolté, car enfin de deux choses l'une, où l'on a de l'aisance, et l'avarice est hideuse, où l'on est pauvre, et alors il est stupide de vouloir paraître jouir d'une certaine aisance. Ah, Louis, Louis, toi que j'ai connu toujours si bienveillant, je te trouve étrangement hostile à ce pauvre homme et à sa fille. Sa fille, peut-on appeler ça une fille? Que diable me chantes-tu là? C'est peut-être une licorne? Ma foi. Allons, tu es fou. Ah ça, mon père, comment voulez-vous donc qu'on nomme une grande créature sèche, hargneuse, maussade, avec des pieds et des mains comme un homme, une figure de casse-noisette, et un nez? Ah, Dieu du ciel, quel nez! Long de ça, et d'un rouge brique! Mais il faut être juste. En revanche, cette incomparable créature a les cheveux jaunes et les dents noires. Le portrait n'est pas flatté. Mais que veux-tu? Toutes les femmes ne peuvent être belles. Bah, crois-moi, souvent un bon cœur vaut mieux qu'une jolie mine. Et quant à moi, la laideur m'a toujours inspiré de la pitié. À moi aussi, mon père. J'avais d'abord grande envie de plaindre cette demoiselle en la voyant si disgracieuse, et surtout, condamnée à vivre avec un homme tel que son grippe-sou de père. Que voulez-vous? En fait de père, vous m'avez gâté. Mais quand j'ai vu cette créature à nez rouge, harcelée, gronder sans cesse ces deux malheureuses servantes, leur mesurer les morceaux, renchérir encore d'avarice sur son père, et cela à propos des plus petites choses, alors ma première compassion s'est changée en aversion pour ce méchant nez rouge. Et comme de plus, il est dans la conversation très sec et fort tranchant, ce nez rouge, au figuré, s'entend. Malgré la bénignité de mon caractère, j'avais à chaque instant l'envie de contredire ce nez rouge pour le vexer. Mais craignant de nuire aux intérêts de mon patron qui m'avait envoyé chez ce vilain client, j'ai rongé mon frein. Et tu te dédommages, je l'espère. Tiens, ça soulage. Avoir eu pendant 5 grands jours ce nez rouge sur le cœur. Décidément, c'est un parti pris. Une fâcheuse prévention, et je parierais moi que cette demoiselle, qui te paraît tranchante, avare et rebêche, est tout simplement une femme d'un caractère ferme et d'habitude ménagère. Cher père, qu'elle soit ce qu'elle voudra, peu m'importe. Seulement il y a dans certaines familles de bien singuliers contrastes. Que veux-tu dire? Figurez-vous ma surprise en voyant dans une des chambres de cette triste maison un portrait de femme d'une figure si charmante, si fine, si distinguée, que cette image semble être placée là tout exprès pour faire continuellement dépit et injure au méchant nez rouge. Ce portrait, d'ailleurs, ressemblait à s'y méprendre à un de mes anciens camarades de collège. Frappé de cette circonstance, je demandai à l'Harpagon quelle était cette peinture. Il me répondit d'un ton bourru que c'était le portrait de sa sœur, feu mademoiselle de Saint-Hérem. « Cette dame serait-elle la mère d'un jeune homme nommé Saint-Hérem ? » demandai-je à mon hôte. « Ah ah, mon bon père, » dit Louis en riant aux éclats, « si tu savais. » « Eh bien quoi ? Avoir la mine de M. Ramon en m'entendant seulement prononcer le nom de Saint-Hérem, on aurait dit que je venais d'évoquer le diable. » Car le nez rouge s'est aussitôt signé d'un air pudique et alarmé. J'oubliais de te dire, pour le compléter, que ce nez rouge est très dévot. Alors son digne père s'est écrié qu'il avait en effet le malheur d'être l'oncle d'un infernal bandit nommé Saint-Hérem. Ce monsieur de Saint-Hérem est, je le vois, un homme de fort mauvaise réputation. Lui, Florestan, le plus brave, le plus charmant garçon du monde. Mais enfin, son oncle t'a dit que... Tiens, cher père, juge-en. Au collège, moi et Saint-Hérem, nous étions très liés. Je l'avais depuis longtemps perdu de vue lorsque, il y a 6 mois, passant sur le boulevard, je vois tout le monde s'arrêter pour regarder sur la chaussée. Je fais comme tout le monde et qu'est-ce que j'aperçois ? Un phaéton attelé de 2 magnifiques chevaux, avec 2 petits domestiques derrière. Cet équipage était si élégant, si charmant, que tout le monde, je te l'ai dit, se retournait pour l'admirer. Or, sais-tu qui conduisait cette délicieuse voiture ? Mon ancien camarade de collège, Saint-Hérem, plus brillant, plus beau que jamais, car il est impossible d'avoir une plus jolie figure et une tournure plus distinguée. Ce monsieur de Saint-Hérem a tout l'air d'un dépensier, d'un prodigue. Attends donc la fin, cher père. Soudain, l'équipage s'arrête, et pendant que les petits domestiques descendus de leur siège se tiennent à la tête des chevaux, Saint-Hérem saute de sa voiture, court à moi et m'embrasse, dans sa joie de me retrouver après une si longue séparation. J'étais vécu comme un pauvre diable de clerc de notaire que je suis, ma vieille redingote marron, mon pantalon noir et mes souliers lacés. Tu me vois d'ici. Mais, cher père, avoue-le, bien des élégants, bien des lions, comme on dit, auraient reculé devant une accolade donnée en public à un gaillard fagoté comme je l'étais. Florestan n'y fit pas seulement attention, lui, tant il avait de plaisir à me voir. Moi, j'étais tout heureux et presque honteux de son amitié, car nous faisions événement à cause même du contraste. Saint-Hérem s'en aperçut et me dit « Ces gens-là sont stupides, avec leur air ébahi. Où vas-tu ? À mon étude. Allons, viens, je t'y emmène, nous causerons plus longtemps. » « Moi, lui dis-je, monté dans ton bel équipage, malgré mon parapluie, ma redingote marron et mes souliers lacés. » Florestan lève les épaules, me prend sous le bras et, bon gré mal gré, me pousse dans sa voiture et me mène à mon étude. Pendant le trajet, Saint-Hérem me fait promettre d'aller le voir, et il me descend à la porte de mon notaire. « Eh bien, mon père, ne peut-on pas juger un homme d'après un trait pareil ?»« Pouah !» fit le vieillard d'un air fort peu enthousiaste. « C'est un premier bon mouvement, voilà tout. Mais je me défie fort de tous ces gens à grand étalage. D'ailleurs, tu n'es pas en position de fréquenter un si gros seigneur. »« Certes. Et cependant, il m'a bien fallu tenir ma promesse d'aller déjeuner chez Florestan un dimanche. Brave garçon !» Il m'a reçu en grand seigneur quant au luxe et à la bonne chère, mais quant au bon accueil, toujours en camarade, en vieil ami de collège. Puis, quelque temps après, il est parti pour un voyage et je ne l'ai plus revu. C'est singulier, Louis. Tu n'as jamais parlé de ce seigneur. Il est vrai, mais sais-tu pourquoi ? Je me suis dit, ce pauvre bon père qui m'aime tant va peut-être s'imaginer, dans son inquiète sollicitude, que la vue du luxe de Florestan est capable de me tourner la tête, de me faire prendre en dégoût notre pauvre condition. Ce soupçon seul serait un chagrin pour ce cher père. Cachons-lui donc qu'une fois dans ma vie j'ai fait un déjeuner en sardanapale de Lucullus. Cher et brave enfant, dit le vieillard avec émotion, je comprends la délicatesse de ta conduite, j'en suis profondément touché. C'est pour moi une nouvelle preuve de ton bon et généreux cœur, mais... « Écoute-moi, car c'est justement à ton cœur, à ta tendresse pour moi, que je vais m'adresser. »« De quoi s'agit-il donc ? Il s'agit de quelque chose de très sérieux, de très grave, non seulement pour toi, mais pour moi. » La physionomie du vieillard devint presque solennelle en prononçant ces derniers mots. Le jeune homme le regarda avec surprise. À cet instant, le portier vint frapper à la porte et entra. « Monsieur Louis, c'est une lettre pour vous. »« Bien ?» dit le jeune homme en prenant la lettre avec distraction, car il cherchait quel pouvait être l'objet du grave entretien que son père allait avoir avec lui. Le portier, ne trouvant pas le moment opportun pour remettre au jeune homme la carte de visite laissée par le commandant de la Mirandière, ajouta en s'en allant « Monsieur Louis, si vous sortez ce soir, n'oubliez pas d'entrer à la loge. J'aurai quelque chose à vous dire. »« Bien !» fit le jeune homme, en n'attachant aucune importance à ces dernières paroles du portier, qui bientôt quitta la chambre. Le père Richard avait d'un coup d'œil reconnu la lettre que le matin même, de son échoppe, il avait adressée à son fils à Paris, rue de Grenelle, au lieu de l'adresser à Dreux, poste restante, ainsi que l'en avait prié la pauvre Mariette. À un moment, le vieillard, instruit du contenu de cette lettre écrite par lui-même, fut sur le point d'engager son fils à la lire immédiatement. Mais après réflexion, il adopta une idée contraire et dit « Mon cher enfant, tu auras tout le temps de lire cette lettre. Maintenant écoute-moi, car je te le répète, il s'agit d'une chose de la plus haute importance et pour toi et pour moi. « Je suis à vos ordres, mon bon père, » répondit Louis en laissant sur la table la lettre qu'il venait de recevoir.